BFM Business, la France a tout pour réussir. Jérôme Tichit.
Bonjour, bonjour et bienvenue dans la France a tout pour réussir. Chaque semaine, chaque week-end, vous le savez, un concentré d'économie positive sur BFM Business. Et cette émission est un peu spéciale puisqu'il s'agit du 250e numéro de la France a tout pour réussir. Et pour l'occasion, eh bien, nous sommes, vous le voyez ici, dans la ville de Lyon où s'est tenue cette semaine la 14e édition des GECO, les Journées de l'économie. L'occasion d'aller à la rencontre de plusieurs acteurs de l'économie lyonnaise ou de la région, mais qui pour la plupart rayonnent déjà à l'international. Et c'est le cas notamment de l'école Vatel, une des écoles de référence dans le domaine du management, de l'hôtellerie et du tourisme. L'école a été créée il y a tout juste 40 ans par Alain Seban, un entrepreneur lyonnais. Et depuis 1981, eh bien Vatel a ouvert plus de 50 écoles dans 33 pays. Nous rejoindrons également Émilie Le Goff, c'est la coprésidente de la French Tech Lyon-Saint-Etienne. Nous verrons avec elle comment se porte la tech au niveau régional, comment les start-up et les PME traversent cette période de reprise. Et puis une question, y aura-t-il bientôt une licorne lyonnaise? Je poserai toutes ces questions à Émilie Le Goff. Enfin, nous réécouterons Hervé Affagar, sa biotech, Mat Pharma, fait d'ailleurs partie de la French Tech Lyon-Saint-Etienne. Mat Pharma qui vient d'effectuer avec succès son introduction à la Bourse de Paris. La start-up lyonnaise qui a été créée en 2014 développe des médicaments pour reconstituer notre microbiote intestinal et c'est très important pour certains patients, notamment en oncologie. Mais tout d'abord, ici à Lyon, comment ne pas parler bien sûr de gastronomie? Nous sommes au pays de la mer Brasier, nous sommes au pays des célèbres bouchons lyonnais, au pays également de Paul Bocuse avec à la fois son restaurant à Collonges au Mont d'Or, les Halles qui portent son nom tout près du quartier de Lapardieu et encore l'Institut Paul Bocuse à Écully. L'occasion d'ailleurs de saluer David Tissot, c'est un jeune chef lyonnais qui dirige le restaurant d'application de l'Institut Paul Bocuse et il a reçu le Bocuse d'Or il y a quelques semaines, c'est un bel exploit. Il n'a pas pu nous en parler dans cette émission puisqu'il est actuellement en Pologne, mais promis, on le retrouvera très vite sur l'antenne de BFM Business puisqu'il nous parlera dans d'autres émissions de son parcours à la fois de chef et d'entrepreneur. La gastronomie, donc, ce sont les métiers de bouche, bien sûr, ce sont aussi les métiers du management dans l'hôtellerie et plus globalement dans le tourisme. Et dans ce domaine, il y a, outre l'Institut Paul Bocuse, une autre très grande école qui fait référence en France et dans le monde, c'est l'école Vatel, fondée par un entrepreneur lyonnais, Alain Seban, il y a tout juste 40 ans. Désormais, je vous le disais en titre, eh bien, cette école compte 50 établissements dans le monde et dans plus d'une trentaine de pays. On va donc en parler avec Alain Seban, tout près d'ici, sur les quais du Rhône. Bonjour Alain Seban.
Bonjour.
Merci d'être l'invité de BFM Business. C'est donc la 250e émission de La France a tout pour réussir. Et vous aimez aussi les comptrons puisqu'il se trouve que c'est également le 40e anniversaire du groupe Vatel. Alors racontez-nous un petit peu, en quelques mots, évidemment, la genèse de ce groupe Vatel que vous avez fondé en 1981.
Oui, tout à l'heure on me demandait quelle idée vous avez eue de fonder le groupe Vatel et je répondais, ça fait tellement longtemps que je ne m'en rappelle plus. Mais c'est vrai qu'en 1981, il y a 40 ans, j'ai eu cette idée parce que j'avais une telle envie que les professionnels de l'hôtellerie, les étudiants qui allaient devenir des professionnels de l'hôtellerie correspondent exactement à ce qu'attendaient les professionnels. Et donc, il fallait adapter peut-être un nouveau système d'enseignement et c'est comme ça qu'on a créé Vatel avec une philosophie très particulière qui était l'alternance entre la théorie et la pratique.
Ça c'est votre credo. Alors rappelez-nous les métiers auxquels vous formez au sein des, on va donner quelques chiffres, je crois des 55 établissements dans le monde entier en cette date donc de 2021.
Oui, c'est vrai que 40 ans après, il y a 55 écoles Vatel dans le monde et on prépare les étudiants, ils rentrent chez nous quand ils ont le baccalauréat, il reste 3 ans pour préparer un bachelor ou 5 ans pour préparer un MBA et quand ils sortent, eh ben ils vont être dans des fonctions de direction des ressources humaines, direction du marketing, direction financière et bien sûr direction d'hôtels et de restaurants dans les plus grandes chaînes hôtelières du monde.
Est-ce que la compétition est rude au sein des écoles? On sait qu'il y a des classements régulièrement. Comment est-ce qu'on émerge dans ces classements? Vous nous avez parlé des valeurs également de l'alternance entre la théorie et la pratique. C'est quoi les valeurs qui font que vous êtes une des écoles les plus performantes au monde?
Je crois que elles sont simples. Vous savez, c'est des Vatel est très familial, et donc parce que c'est une entreprise, si on peut dire, ou une école, ou des écoles où le sens familial est très important, on a placé l'humain au cœur de nos écoles. C'est-à-dire qu'un étudiant, c'est un étudiant. On le connaît, on l'appelle par son prénom, on connaît ses défauts, on connaît ses qualités. Il faut que ses défauts, eh ben, on les diminue, et que ses qualités, on les fasse grandir. C'est ça notre vocation pendant les 3 ans de formation, et c'est ça, placer l'humain au cœur de nos écoles, c'est avoir une attention très particulière pour nos étudiants.
On est à Lyon, on est dans la capitale de la gastronomie, donc il y a une French touch, une Lyon touch en matière de gastronomie. Est-ce qu'en matière de management aussi de ces établissements, il y a une Lyon touch aussi ?
Oui, il y a un savoir-faire à la française. Si vous voulez, c'est Lyon qui est le cœur de la France en matière de gastronomie, mais il y a un savoir-faire à la française qui est reconnu dans le monde entier et qui nous a porté pendant 40 ans et qui nous a permis d'ouvrir des écoles dans le monde, parce que je crois que dans le monde entier, on est admiratif de ce savoir-faire à la française, et c'est vrai qu'ils avaient envie d'avoir des professionnels comme on les a en France, et c'est comme ça qu'on a ouvert des écoles dans le monde entier.
Le tourisme, Alain Seban, il a évidemment beaucoup souffert pendant cette crise sanitaire. Secteur très soutenu par les pouvoirs publics en France, quel bilan vous faites de ce soutien ?
Moi, je fais un bilan positif, parce que je crois que les gens sont restés tellement sur eux-mêmes pendant ces 2 années qu'ils ont envie de sortir, de se retrouver et bientôt de pouvoir voyager. Et je crois que le tourisme va prendre encore une expansion formidable. En tout cas, on attend des jeunes gens, des jeunes filles qui ont envie de faire ce métier, parce que la profession en a besoin. Donc je leur dirais, venez nous rejoindre et on va vous former comme il faut, et vous allez réussir, travailler pour un métier passionnant, travailler dans le monde entier, et vous allez réussir votre vie professionnelle et obligatoirement votre vie personnelle.
Et puis l'actualité, donc c'est ce jeudi 4 novembre, c'est à l'Élysée, Emmanuel Macron qui a voulu relancer la destination France. Il a reçu des opérateurs, des grands noms du tourisme français. Que vous inspire cette réunion et cette volonté de relancer la destination France ?
C'est bien, parce que l'hôtellerie, la restauration, le monde du tourisme en France en a besoin. On a un pays tellement magnifique, tellement beau. On est premier pays à recevoir le tourisme dans le monde. Hein, on est numéro 1 dans le monde. Ça nous a porté aussi à Vatel, parce que être le premier pays au monde, le premier pays touristique au monde, ça porte indiscutablement, et ça nous a permis d'avoir aujourd'hui 55 écoles dans le monde, indiscutablement.
Et la suite maintenant, les 55, ça va être plus. C'est quoi les prochaines années pour votre groupe en termes d'expansion, de développement ou de diversification peut-être ?
Non, pas de diversification. On reste toujours dans le même métier, je crois, parce qu'on l'aime tellement qu'on ne veut pas changer ou ne veut pas se diversifier. Mais c'est vrai que on a eu 2 années où on s'est un peu stabilisé au niveau de notre développement. Et là, indiscutablement, on a soif de continuer la croissance et la création de nouvelles écoles dans le monde.
Un chiffre pour finir, combien vous formez de personnes chaque année ? Combien vous en avez formé au total depuis 40 ans ?
Aujourd'hui, il y a 9000 étudiants qui étudient dans nos écoles Vatel. On a formé 36 000 étudiants, et donc j'ai 36 000 petits-enfants dans le monde que je retrouve avec plaisir quand je voyage.
Merci beaucoup donc Alain Seban d'avoir été l'invité de BFM Business, et bon anniversaire, bon 40e anniversaire au groupe Vatel. On va donc à présent, il y a quelques mètres d'ici, on va parler à présent de la tech, puisque c'est à la Cité de la Gastronomie, c'est vraiment tout proche de ce lieu de la convention du groupe Vatel. On va retrouver Émilie Le Goff, c'est la patronne, la coprésidente de la French Tech Lyon et Saint-Étienne. Nous voilà donc en effet à la Cité de la Gastronomie en compagnie d'Émilie Le Goff. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la coprésidente de la French Tech Lyon-Saint-Étienne. Donc on va parler de cette French Tech régionale en quelques instants. Mais vous êtes aussi une entrepreneuse, je ne sais pas quel est le mot que vous utilisez.
Ça dépend.
Vous avez fondé Troops il y a 5 ans. Et donc on est au cœur de quelque chose qui émerge fortement, c'est la digitalisation des process, et notamment dans ce qui vous concerne, des process RH. Parlez-nous de Troops.
Alors Troops, c'est une société d'édition de logiciels qui accompagne amène les groupes d'intérim historiques à se digitaliser en s'appuyant sur ce logiciel, donc Troops. On parle même de figitaliser, parce qu'en fait l'objectif c'est pas d'être du 100% digital, mais c'est bien de rajouter une couche digitale sur tous les process humains qu'il y a dans l'intérim.
Alors 5 ans avec de gros événements, il y a une grosse levée de fonds, et puis les confinements vous ont obligé à repenser votre modèle avec beaucoup plus de télétravail pour ce qui vous concerne.
Exactement, ouais, c'est même pas beaucoup plus, c'est 100% télétravail maintenant, avec plein de côtés positifs. C'est du coup on a un terrain de jeu et de compétences en tout cas qui est beaucoup plus large, puisqu'on n'est plus obligé de recruter à côté du siège social. Donc voilà, aujourd'hui on a 65 collaborateurs un peu partout en Europe.
Et une levée de fonds qui se profile, une autre?
Et on a une grosse levée de fonds qui se profile, parce qu'en fait on devait faire 2 milliards de volume d'affaires d'ici à la fin de l'année, finalement ce sera plutôt 3, donc ça se passe bien. Donc effectivement on amorce une bonne levée de fonds pour s'étendre à l'international.
Alors la French Tech Lyon Saint-Etienne, on en parle, les chiffres clés, combien d'entreprises en font partie?
Alors il y a énormément d'entreprises, il y a à peu près 1000 startups, un peu plus maintenant, et puis une centaine de scale-up. Alors c'est des noms un peu bizarres quand à définir, mais on a scale-up, c'est à partir du moment où il y a des levées de fonds qui sont assez importantes, on va dire au-delà de 10-20 millions qu'on constitue des scale-up. Et puis ça regroupe aussi surtout tout l'écosystème du territoire, donc il y a des incubateurs, des accélérateurs, on a la Direct, on a l'URSSAF, on a la CPME, le MEDEF. En fait ça regroupe tout l'écosystème et pas uniquement tech, parce que l'idée c'est de se dire qu'une start-up, il y a parfois des PME qui sont des start-up sans le savoir, et il y a des départements d'innovation dans les grands groupes. Donc en fait tout le monde est bienvenu à la French Tech, c'est un écosystème qui est très large.
Et cette union qui fait la force, c'est très important. On parle beaucoup depuis quelques années de la Startup Nation que serait en train de devenir la France. Vous le ressentez vous aussi au niveau local? Il y a cette envie de faire ensemble et de faire bien ensemble.
Voilà, exactement. La Startup Nation, ça ne concerne pas que les startups comme on a l'impression, des petits jeunes qui sont avec un pull et en basket. C'est vraiment, pour moi, la Startup Nation, ça regroupe toute la France, et c'est vraiment une énergie qui est très forte, qui est vraiment poussée aujourd'hui, et qui est, tout le monde est concerné, quoi. Donc, une belle énergie.
Au niveau national, il y a quand même évidemment des plans et des plans importants. Il y a eu France Relance, il y a maintenant France 2030. Est-ce que ce soutien aussi massif et financier et qui est né pendant la crise, est-ce qu'il est important aussi pour le développement des startups, des scale-up et des PME dont font partie la French Tech Lyon Saint-Etienne?
Alors c'est important et c'est même fondamental, parce qu'on avait un retard justement par rapport aux États-Unis ou même en UK. Effectivement, on avait besoin de financement très large pour financer ces entreprises, qu'elles aillent plus vite, qu'elles aient les épaules assez solides pour se développer et être en concurrence avec d'autres entreprises à l'international. Et c'est effectivement ce qui s'est passé là pendant le confinement. Il y a eu de très fort développement, des super levées de fonds, et on est très fiers et on va prendre une bonne position au niveau mondial. Donc ce plan de relance, c'est franchement et ce plan 2030 est nécessaire, et je pense qu'on fera de belles choses avec, quoi.
Quelques pépites de la French Tech Lyon Saint-Etienne que vous identifiez, peut-être des futures licornes d'ailleurs?
C'est un petit peu l'objectif. Alors des pépites, on en a plein, c'est toujours difficile un peu de faire un choix, mais je citerai notamment Indie, qui est une société donc qui a levé quelques dizaines de millions il n'y a pas très longtemps, et qui fait de la gestion comptable. On a Ubis Transport, qui est un logiciel d'optimisation en fait des transports publics, qui fonctionne très bien aussi. On a par exemple Lactips, également, qui fait du polymère biodégradable, donc le premier polymère 100% biodégradable. Enfin, il y a plein de boîtes comme ça, effectivement, qui s'expriment dans la région. On en est bien content.
On est à 6 mois maintenant du premier tour de la présidentielle. Qu'est-ce que vous attendez que les candidats ou futurs candidats portent comme débat pour les entreprises?
Je pense qu'il faut laisser beaucoup d'autonomie aux entreprises et leur donner tous les moyens. En fait, on a beaucoup de contraintes juridiques en France. Enfin, moi, je suis dans les RH, donc je suis quand même assez concernée. Et c'est laisser vraiment de plus en plus de souplesse et des financements. Je trouve qu'aujourd'hui, ça avance vraiment dans le bon sens. Donc, continuer sur ce chemin-là, effectivement. Et puis, surtout, d'être à l'écoute, vraiment à l'écoute de ce qui se passe sur le terrain pour pouvoir répondre à des problématiques réelles, quoi.
Un mot également de Mat Pharma. Donc, c'est une entreprise de la région lyonnaise qui a fait partie, je crois, de la French Tech Lyon Saint-Etienne. Je ne sais pas si elle en fait
tout
encore
à fait,
partie.
Ouais.
Vous les connaissez bien?
Alors, oui, on les connaît bien. Et puis, moi, c'est en plus vraiment une entreprise qui me tient à cœur, parce qu'ils travaillent effectivement sur le microbiote, comme la plupart de personnes le savent, et c'est vraiment, ça touche tout le monde. Enfin, je pense qu'on a toujours des personnes de près ou de loin qui ont besoin de thérapie avec ce système-là. Donc, ouais, non, c'est vraiment une super boîte, quoi. Et on est très, très fiers d'avoir des boîtes comme ça sur notre territoire.
On va en reparler dans un tout petit instant. Merci beaucoup, donc, Émilie Le Goff, d'avoir été l'invitée de la 250e émission de La France a tout pour réussir. On souhaite que la région Rhône-Alpes également, mais on n'en doute pas, ait tout pour réussir.
Merci beaucoup.
Et donc, je vous le disais, donc, on va reparler de Mat Pharma, donc, qui a réussi cette semaine son introduction à la Bourse de Paris sur le marché réglementé d'Euronext afin de poursuivre son développement. Paris réussi qui aboutit à une augmentation de capital de plus de 36 millions d'euros. On va donc réécouter Hervé Affagard, c'est le cofondateur et le directeur général de Mat Mad Pharma. Il était mon invité au tout début du mois d'octobre pour évoquer cette introduction en bourse. Et surtout, il nous a rappelé le cœur d'activité de Mad Pharma. Émilie en parlait il y a quelques instants, c'est le développement de médicaments pour restaurer le microbiote intestinal, des outils essentiels pour traiter certains cancers, mais aussi pour lutter contre les rejets parfois dans les cas des greffes de moelle osseuse. On écoute donc Hervé Affagard.
Les déséquilibres de la flore intestinale, un écosystème jugé tellement fragile que peu de biotechs se sont lancés dans ce domaine thérapeutique. Et pourtant, le microbiote, 250 espèces différentes de bactéries, virus et champignons, a des pouvoirs incroyables, capables de lutter notamment contre les microbes. Il devrait à terme révolutionner la médecine de demain. C'est bien simple, si les essais cliniques de Mad Pharma sont concluants, la biotech pourrait faire figure de pionnière au niveau mondial et permettre à la France d'être à la pointe de la recherche. La société lyonnaise se focalise sur les traitements des cancers et la maladie du rejet pour les personnes greffées. Dans son portefeuille, trois médicaments en développement, dont un qui est entré en essai clinique de phase 3 pour une mise sur le marché prévue pour 2025. Mad Pharma a levé depuis ses débuts 45 millions d'euros. En juillet dernier, elle a bénéficié de près de 2 millions de subventions dans le cadre du plan France Relance. La filière est un enjeu d'avenir, selon BPI France, dans laquelle les Français ont encore une carte à jouer.
Voilà donc pour cette présentation de Mad Pharma. Donc on a bien compris, chez Mad Pharma, vous développez des médicaments qui restaurent le microbiote intestinal pour améliorer notamment la survie de certains patients atteints de certains cancers. Alors expliquez-nous de manière assez simple, on l'a vu un petit peu donc avec Hélène Cornet, mais ce qu'est le microbiote intestinal pour chacun d'entre nous.
Oui, alors l'introduction est parfaite. Effectivement, le microbiote intestinal est composé d'un très grand nombre de micro-organismes. On parle de 100 000 milliards de micro-organismes au total. Et en fait, ces micro-organismes vont être altérés par un certain nombre de paramètres, un certain nombre de critères. La maladie elle-même, quand on a une maladie, ça va influencer la composition de notre microbiote intestinal, mais surtout les médicaments qu'on reçoit pendant un traitement. Et pour les patients qui vont avoir un cancer, l'altération du microbiote intestinal va être très importante du fait de la prise d'antibiotiques, des chimiothérapies et encore plus extrême dans le cas de transfert de cellules souches. Donc l'altération de ce microbiote intestinal est directement liée en fait avec le pronostic, la diminution du pronostic vital pour ces patients qui reçoivent des traitements très, très agressifs.
Et justement, donc Hervé Affagard, on va voir pour celles et ceux qui nous suivent en télévision, on va le décrire pour celles et ceux qui nous suivent en radio, deux images très très claires. Donc à gauche sur l'écran, on a un microbiote que je vais qualifier de sain lorsque tout va bien. Il est multicolore, il y a différentes choses qui le composent. Et à droite, c'est quand un patient reçoit un traitement de chimiothérapie, il est plutôt monocolore. Ça veut bien dire que cette diversité qui est si utile à notre microbiote, donc à notre vie tout simplement, elle est altérée et c'est là que vos médicaments, c'est bien cela, entrent en jeu pour restaurer la première version, celle qui est à gauche.
Absolument. Donc en fait, sur cette image très illustrative, on parle d'un patient qui est diagnostiqué avec une leucémie aiguë, donc la leucémie de l'adulte, et on voit son microbiote au moment du diagnostic. Et on voit le résultat 28 jours après le début de ses traitements. Et donc, le type de traitement qu'il va recevoir, c'est principalement des chimiothérapies et des antibiothérapies. Et en fait, cette monocolore que vous évoquez, en fait, on parle d'une simplification du microbiote intestinal qui, comme vous l'avez vu ou vous pouvez le voir, est complètement simplifiée. En fait, on n'a plus qu'une seule espèce bactérienne qui domine le microbiote intestinal. Donc, c'est un peu comme une forêt qu'on avait ravagée et à la fin, il n'y a plus que les fougères qui ont poussé. Et une fois qu'on est dans cet état-là, en fait, on n'a plus aucune résilience. On va être, le terrain va être fertile pour des infections, pour de nombreuses complications. Et c'est là où l'intérêt de restaurer le microbiote intestinal avec les biothérapies que nous proposons est extrêmement pertinent.
Et pour tous ces produits, pour toutes ces technologies, évidemment, il faut des financements. Vous êtes sur BFM Business, donc on va aussi parler du besoin de financement. Depuis la création fin 2014, combien de levées de fonds, combien d'argent vous ont aidé à vous développer? Et surtout, maintenant, la phase d'après, donc on en parlera dans un instant, c'est l'intro en bourse. Mais d'abord, les 7 ans qui viennent de s'écouler, combien de financements ?
En fait, on a fait 3 tours de financement. Le premier tour de financement était un tour d'amorçage au moment de la création de la société, bon an, mal an. C'était en décembre 2014. Ensuite, pendant 18 mois, avec ce fonds, cet investissement d'amorçage qui a été géré, Mad Pharma a eu son premier investissement de la société Seventure, qui est le leader quasi mondial des investissements dans le domaine du microbiote, avec 450 millions sous gestion dédiés à cette thématique. Donc, avec ces premiers 2 millions de Seventure, on a pu générer des preuves précliniques. 18 mois plus tard, on a traité notre premier patient sur des patients leucémiques, là encore. À ce moment-là, on a levé 10 millions au titre d'une série A, ce qui nous a permis d'asseoir notre infrastructure, à la fois sur le plan manufacturing et également au niveau de l'équipe. Ensuite, on a fait une série B de 25 millions, qu'on a clôturée en 2020. Et donc, au total, nous avons levé 46 millions, si on ajoute l'argent non dilué et notamment les 2 millions du plan de relance que vous avez mentionné dans votre introduction.
Il nous reste vraiment une minute maximum pour notre entretien. Deux petites questions rapides. La première concerne le site de production. Donc évidemment, il va se développer avec le développement des différents médicaments que vous avez créés, que vous allez créer. Combien de personnes travaillent actuellement sur le site de Lyon ?
Alors aujourd'hui, on est une quarantaine de personnes. Il y a environ une dizaine de personnes qui sont dédiées à la partie production. Et effectivement, nous prévoyons d'étendre nos capacités de production. On va les multiplier par 6 ou 7 par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Et on va également faire croître les effectifs postérieurement à l'IPO et au montage de cette usine.
Et un mot de l'APM, c'est l'Alliance Promotion Microbiote. Vous étiez, je crois, ce jeudi donc à Big, l'événement organisé à Paris par nos amis de BPI France, pour promouvoir cette Alliance Promotion Microbiote. Quels en sont les objectifs de cette fédération, de cette agrégation des forces françaises en la matière?
C'est très simplement de faire de la France le leader européen pour pouvoir se battre au niveau international. Aujourd'hui, la France est troisième. 1, US, 2, Corée, 3, France, et ensuite on voit le UK et un certain nombre de pays européens. Nous, ce qu'on veut, c'est fédérer au niveau français pour ensuite être les leaders européens et pouvoir se battre dans la compétition internationale. Donc c'est important que l'on puisse capitaliser nos forces et nous unir pour être plus forts.
Voilà donc pour Mad Pharma, cette biotech lyonnaise qui vient de réussir son introduction sur le marché d'Euronext. Autre entreprise de la région qui vient elle aussi d'effectuer son introduction en bourse avec à la clé une levée cette fois-ci de 110 millions d'euros, eh bien c'est Waga Energy dont le siège est à Mélan, c'est dans le département voisin de l'Isère. Waga a développé une technologie, la Waga Box, qui permet en fait de produire du biométhane à partir du gaz émis par nos stocks de déchets ménagers. Ce biométhane devient alors du gaz naturel destiné aux consommateurs, qu'ils soient industriels ou particuliers. Mathieu Lefebvre, le PDG de Waga Energy, était sur le plateau de Good Morning Business, c'était le 28 octobre dernier. On l'écoute.
On est capable de faire ça aujourd'hui grâce à une rupture technologique majeure, la Waga Box, qui nous a quand même demandé 15 ans de recherche et développement, et donc qui est une technologie qui va permettre d'épurer ce gaz spontanément produit dans les installations de stockage de déchets et en faire donc du biométhane qui va pouvoir être injecté dans le réseau de gaz naturel. Et pendant tout ce temps, on a donc développé cette solution, réalisé les premières usines. On a 10 usines en exploitation aujourd'hui. On a, on s'est aperçu du bon sens de cette solution, de la traction au marché et de sa capacité à se déployer au niveau mondial. Et donc, il était temps aujourd'hui pour nous d'aller chercher des moyens pour déployer cette solution qui fait du bien à la planète le plus largement possible.
J'ai vu l'an dernier que vous aviez 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Vous avez valorisé 500 millions. C'est un sacré pari quand même que les investisseurs font avec vous. Est-ce qu'il y a vraiment un potentiel, je ne me rends pas compte, récupérer comme ça le méthane pour en faire du biogaz, est-ce que ça représente une part de marché de l'utilisation de gaz naturel importante potentiellement?
Alors, deux questions en une. Est-ce que c'est un sacré pari? Je pense que je vais juste rappeler le modèle d'affaires de Waga Energy. On est producteur de biométhane, c'est-à-dire qu'on est développeur, investisseur et exploitant de nos usines. Chaque usine va coûter entre, on va dire, 3 et 10 millions d'euros. Donc, on a d'ores et déjà un chiffre d'affaires prédictible sur 10, 15, 20 ans, puisqu'on est sur des contrats long terme de vente d'énergie. Et donc, aujourd'hui, en fait, on a déjà sécurisé pour 30 millions d'euros de chiffre d'affaires sur les 15 à 20 prochaines années. Et chaque fois qu'on rajoute un projet, on vient finalement cumuler du chiffre d'affaires prévisionnel sur le long terme. Donc, vous doutez qu'on a plus de 80 grands fonds d'investissement internationaux qui ont investi dans l'opération. Ils ont fait des analyses depuis des mois sur le projet de Waga et sur son potentiel de marché. Ensuite, sur le potentiel, votre deuxième question, elle est très importante. Oui, le potentiel de production de biométhane est très important. Le potentiel de production de biométhane en France est le plus important d'Europe. On a la plus grande capacité de production de biomasse, et donc évidemment qu'il faut aller développer cette énergie qui est l'énergie écologique par excellence. Nous nous intéressons réellement à la matière organique produite dans nos déchets, les déchets des ordures ménagères finalement. Cette quantité d'énergie au niveau mondial, on estime qu'elle est de l'ordre de 1000 TWh. Et que ce chiffre, étant donné que la production de déchets augmente chaque année, devrait atteindre plus de 3 milliards de tonnes en 2050, on estime que le potentiel de la matière organique des déchets en 2050 sera de l'ordre de 1750 TWh au niveau mondial. C'est toute l'énergie que consomme la France sur une année. Mmh. Toute énergie confondue.
Et voici donc pour ce tour d'horizon non exhaustif des succès Made in Lyon et même Made in Rhône-Alpes. Je vous signale d'ailleurs que BFM Business va délocaliser son antenne ici même à Lyon. Ce sera le mardi 7 décembre, comme nous l'avons fait récemment à Lille à l'occasion du Tour de France de la reprise. Et ce sera dans ces magnifiques locaux de la CCI juste derrière moi, le 7 décembre, la veille de la Fête des Lumières, si chère bien sûr au cœur des Lyonnais. Nous on se retrouve le week-end prochain à Paris pour le 251e numéro de La France à tout pour réussir. Une nouvelle fois, une émission spéciale puisque nous serons au salon MIF Expo, porte de Versailles. Le MIF Expo, c'est le salon du Made in France. Il y aura de nombreux témoignages de celles et ceux qui, comme vous, comme moi, croient vraiment et fortement au fabriqué en France. D'ici là, bien sûr, je vous souhaite un très bon week-end, peut-être même une belle fin de vacances de la Toussaint. Et à très vite, à très bientôt sur BFM Business.
BFM Business, la France a tout pour réussir.